peu spécial. Alors que nous nous rencontrons aujourd'hui à 10 h, il y a beaucoup d'enfants en bas qui, chaque dimanche, dans le service de 10 h à 11 h, malheureusement, nous ne sommes pas capables d'atteindre la demande parce qu'il n'y a pas beaucoup de volontaires. On doit observer on doit respecter un nombre de volontaires pour garder un nombre d'enfants. Alors, je le dis pour que vous sachiez et priez par rapport à ça, et peut-être que le Saint-Esprit peut vous guider à servir comme volontaire dans les ministères des enfants. Commençant janvier 18, on planifie avoir les services pour les 8, de 8 h, 10 h, pour les 3 services, et on a besoin des volontaires pour tous les 3. S'il vous plaît, mettez cela dans la prière. On veut recevoir tous les enfants qui viennent à Willingdon et prendre soin d'eux et faire le ministère de Jésus envers eux. Ce matin, nous continuons dans notre série, les sacrés droits et rites. 1 Corinthiens est composé de 5 blocs principaux, si vous le savez, des sujets. Dans la divi les divisions dans l'Église, 1 à 4, et puis la sexualité, le mariage et le divorce. On a accompli la troisième section, l'idolâtrie, et toutes ces conversations sur la nourriture. Aujourd'hui, on va commencer la quatrième section, qui commence chapitre 11, verset 2, qui va jusqu'à la fin du chapitre 14. Cette section traite de l'ordre dans le culte corporatif. La tenue vestimentaire appropriée, la scène du Seigneur. Alors, levons-nous pour la lecture de la parole de Dieu, chapitre 11, 2 à 16. Pasteur Vin, voudriez-vous lire pour nous, s'il vous plaît? 1 Corinthiens 11, versets 2 à 16. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez, de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai annoncées. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie ou prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme au contraire qui prie et qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés et d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire du Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme, car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Vin. Vous pouvez rester debout pour la prière. Père, nous continuons d'adorer et de t'honorer. Nous te remercions encore d'avoir envoyé Jésus pour devenir l'un de nous et de révéler ta gloire et de mourir à notre place et être ressuscité. Et il a accompli la rédemption pour nous. Nous te remercions d'avoir envoyé le Saint-Esprit demeurer en nous et au milieu de nous. Et ce matin, nous reconnaissons que nous Nous avons besoin de ton aide, Saint-Esprit, pour que nos yeux s'ouvrent, que nos esprits soient recevoir et que nos cœurs reçoivent ce qui est communiqué à travers ce passage un peu difficile et de comprendre. Alors, nous demandons ta grâce sur chacun d'entre nous. Aide-nous à voir, comprendre et recevoir. Et que nous puissions vivre pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Avez-vous parfois envie de zapper quelque chose? Une réunion tendue, un examen, une corvée? Si je pouvais éviter de faire la vaisselle, je le ferais chaque fois, à chaque fois. C'est lui qui a trouvé le nom Skip the Dishes pour la livraison de nourriture en ligne. Était génial. Dans notre groupe de vie, cellule, lorsque nous partageons un repas ensemble, il y a un membre du groupe de vie qui aime servir le groupe en faisant la vaisselle. Vers la fin du repas, il s'éclipse discrètement et commence à laver la vaisselle. Je lui suis très reconnaissant. Je suis très reconnaissant. Hommage à Andrew Wood. Mais vous savez quoi? Parfois, c'est précisément quand vous faites ce que vous préfériez ne pas faire, quand vous lavez la vaisselle, que vous avez une opportunité de grandir, d'avoir des conversations cruciales et d'acquérir de nouvelles perspectives. Parfois, ce que nous préférerions éviter même à une nouvelle mène à une nouvelle compréhension. Après tout, laver la vaisselle est vraiment importante. Si vous ne faites pas la vaisselle, quand vous n'avez pendant longtemps, elle développe des bactéries, de la moisissure, des odeurs désagréables. Elle devient un risque pour la sécurité alimentaire et attire des nuisances, des fourmis, des cafards, et vous ne voulez pas zapper la vaisselle. Si nous ne parcourions pas la première lettre de Paul aux Corinthiens, passage par passage, nous pourrions être tentés de zapper le passage d'aujourd'hui. C'est l'un des textes bibliques le plus controversé de notre époque. Mais je crois pourtant qu'il contient des vérités éternelles que nous évitons à nos risques et périls. Il est tout à fait possible que certains d'entre nous rentrent chez eux mécontents aujourd'hui, je le sais, mais nous pourrions aussi être gratifiés par des conversations intéressantes. Certains soutiennent, en regardant ce texte, qu'un mouvement féministe grandissant à Corinthe a encouragé les femmes prophètes à affirmer leur égalité et leur indépendance. Elle tentait d'éliminer les différences entre les sexes. Après tout, en Jésus, il n'y a ni homme ni femme. Cette interprétation est très erronée, je pense. Elle se contente de projeter notre agenda. Le passage parle effectivement de couvrir les cheveux. Mais il n'est pas principalement question de couvrir la tête ou les coiffures. Il parle de l'autorité, mais il n'est pas principalement question de l'autorité. Mais si le mot tête apparaît 14 fois, il parle des femmes qui prient et prophétisent, mais il n'est pas principalement question de femmes dans le ministère. Le problème principal est votre cœur et mon cœur devant Dieu dans l'adoration, une question bien trop importante pour être zappée. Pour Dieu, la manière dont vous et moi nous tenons dans l'adoration compte vraiment. Voilà, il y a une déclaration de l'ordre divin et le texte parle de la déclaration. Au sein d'une culture de honte, au sein des conventions sociales, au sein de l'ordre des créations. Et versets 7 à 12. Après avoir félicité les Corinthiens de leur fidélité aux traditions qui leur ont été transmises, Paul fait une déclaration. Il veut qu'ils comprennent quelque chose. Il veut être sûr qu'ils ne vont pas zapper. Alors, commençons par le chef du Christ, c'est Dieu. Nous avons tendance là. Commençons par le chef du Christ, c'est Dieu. Nous avons tendance à lire pouvoir et domination dans le concept de leadership, de chef. Le chef est le patron oppressif de la maison, de l'école ou du lieu de travail. Il ou elle dit aux autres quoi faire et s'attend à ce qu'ils obéissent. Et les chefs sont presque toujours mieux payés et plus estimés. Si c'est la façon dont nous pensons, nous devons regarder les Écritures. Les Écritures enseignent la doctrine de la Trinité. Dieu le Père, Dieu le Fils et l'Esprit des dieux sont trois personnes en une. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. Tous trois sont de la même essence, mais ils ont des rôles différents. Le Père qui est la tête n'implique pas l'inégalité ou l'infériorité du Fils ou de l'Esprit. Le Père, le Fils et l'Esprit sont vus œuvrant ensemble dans la création. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 8:6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Dieu, le Père, est la source de toutes choses. Toutes choses existent pour sa gloire. Toutes choses ont été créées par Jésus, à travers Jésus. C'est par lui que nous sommes recréés et restaurés. Quand il s'agit de la rédemption, Dieu le Père a envoyé Jésus dans le monde par amour pour nous. Jésus obéit au Père et l'a honoré en toutes choses. Il a accompli la rédemption par sa mort et sa résurrection. Le Saint-Esprit a ensuite été envoyé par le Père et le Fils pour nous appliquer la rédemption, nous rendre spirituellement vivants, nous conformer à l'image de Jésus et nous habiliter à servir. Alors, la Trinité, trois personnes en une, égale en essence, mais avec des rôles différents. Alors maintenant, regardons le chef de tout homme, c'est le Christ. Jésus est la tête de l'Église. En tant que disciple, nous nous soumettons à son autorité. Dans Éphésiens 1, 22, l'autorité de Jésus se réfère à son autorité sur toutes choses, sur toutes les puissances du mal. Elle se réfère à ses soins, à sa nourriture dans l'Église. Et en Éphésiens 5, 23, Jésus est décrit comme la tête de son corps, l'Église. Chaque disciple de Jésus se soumet à son autorité, à l'autorité de son Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et regardons la deuxième phrase, la tête de la phrase controversée, le chef de la femme, c'est l'homme. Toutefois, les personnes ont une dignité égale devant Dieu, mais les personnes ont encore des rôles différents désignés par Dieu. L'autorité du mari dans le mariage est enracinée dans la création et l'Évangile. Afin d'éviter le langage de l'autorité dans le mariage, certains traduisent le sens de tête par source ou prééminence, voire suprématie. Mais cette interprétation, je pense qu'elle n'est pas utile. Dans sa tentative d'éviter le langage de l'autorité, elle élève le mari à un statut semblable à celui des dieux. La question est comment l'autorité du mari devrait-elle être exercée? Éphésiens 5, 23 à 25. Car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, comme l'Église est soumise à Christ, que les femmes aussi soient soumises en tout à leur mari. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles. Notez que l'autorité du mari n'est pas l'exercice égocentrique du pouvoir à des fins de domination, mais l'exercice de l'autorité par le service aimant. Le mari doit exercer son autorité en se sacrifiant pour sa femme, afin qu'elle devienne tout ce que Dieu a prévu qu'elle soit. La femme doit respecter son mari et lui-même être soumis par révérence pour Jésus, afin qu'il devienne tout ce que Dieu a prévu qu'il soit. Voici la vision biblique. Par leur amour mutuel, leur rôle donné par Dieu et leur unité intime, le mari et la femme doivent refléter le mystère de la relation entre Jésus et son Église. En effet, le mystère de l'Évangile, c'est un appel élevé. Le mariage biblique respecte l'ordre divin des relations et prêche l'Évangile. Dans une culture comme la nôtre, à quoi cela ressemble-t-il d'honorer l'ordre divin de toutes choses? Comment honorons-nous le Père dans la vie de chaque jour? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Comment honorons-nous Dieu dans nos relations conjugales? La sagesse nous conduit à honorer l'ordre divin de la Trinité, de l'Église et du foyer. Et cela a des implications pour l'adoration lorsque l'Église se rassemble. Regardons le cœur d'adorateur au sein d'une culture de honte et d'honneur. 1 Corinthiens 11, 4, 6. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non couverte déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée, car si une femme n'est pas couverte, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés, d'être rasée, qu'elle se couvre. Ok. Qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Dans ce verset, Paul suppose simplement que les hommes et les femmes prieront et prophétiseront lorsque l'Église est rassemblée. Pourquoi un homme déshonorerait-il sa tête, Jésus, s'il priait ou prophétisait la tête couverte? Pourquoi? Le contexte est essentiel pour comprendre ce que Paul est en train d'écrire. Il était coutume pour les hommes romains, en particulier les élites sociales, d'étirer le pan lâche de leur toge sur la tête comme un acte de piété dans l'adoration des dieux païens. Ici, nous avons la photo d'Auguste. Qu'est-ce qu'il essaye de communiquer, César, Auguste? Il communique à tous ceux qu'il regarde qu'il est humble. Paul puise dans l'exemple de cette coutume romaine païenne, non pas pour dire qu'un homme chrétien couvre sa tête physique, pour souligner que les hommes déshonorent leur tête spirituelle Jésus-Christ lorsqu'ils attirent attention sur eux-mêmes dans l'adoration. Que tous les gens les regardent. Regardez comment je suis humble. La question de cœur est que les hommes ne se glorifient pas eux-mêmes par leur affichage public d'humilité. Alors, pourquoi est-il honteux pour une femme de prier et de prophétiser la tête non couverte? Encore une fois, le contexte est essentiel pour notre compréhension. La culture de Corinthe était une culture de honte et d'honneur. Les chefs de famille symbolisaient publiquement l'honneur de la famille. Et les membres de la famille ne devaient pas apporter les deux honneurs au mari, père et au bon nom de la famille. À Corinthe, une femme protégeait l'honneur de la famille par son intégrité personnelle et sa pureté sexuelle. Les femmes mariées respectables portaient une sorte de couvre-chef en public pour communiquer qu'elles étaient engagées envers un seul homme, qu'elles étaient vertueuses, qu'elles étaient intouchables. Si une femme mariée sortait dans la rue sans couvrir la tête, elle communiquait qu'elle était sexuellement disponible, apportant ainsi la honte sur sa tête, c'est-à-dire son mari. En Corinthe, à Corinthe, si une femme commettait un adultère, le mari lui rasait la tête et la bannissait de la maison. Sa tête rasée la marquait, la honnissait publiquement. Ça, c'est le contexte. Que se passait-il à l'église à Corinthe? Une possibilité est qu'il y avait une certaine confusion parce que les églises se réunissaient dans les maisons. Dans la maison corinthienne, les femmes n'étaient pas, ne savaient pas quoi faire. Les femmes n'étaient pas dans... Parce que dans les maisons corinthiennes, les femmes n'étaient pas tenues de porter de couvrir la tête. Qu'est-ce qui était approprié si l'église se réunissait dans leur maison? Un service de culte dans une maison privée était-il un événement public? Les cadres devaient-ils être considérés comme une maison parce que les hommes et les femmes étaient frères et sœurs ou les conventions sociales publiques pour les hommes ou les femmes? Paul sous-entend que le rassemblement de l'Église était un moment de culte public. Une femme mariée qui prie et prophétise dans le culte public sans couvrir la tête déshonore son mari et communique qu'elle est sexuellement disponible. Son comportement sexuellement provoquant et qui vont avoir rasé en raison d'un adultère. Le point est le suivant, les femmes ne doivent pas être des objets d'attraction en train d'être évaluées par les hommes pendant le culte. Elles ne doivent pas attirer l'attention sur elles-mêmes et apporter la gloire à Dieu. Quelles sont les implications pour nous? Comment honorons-nous Jésus lorsque nous nous rassemblons pour le culte comme femmes et hommes? Dans une culture comme la nôtre, les femmes mariées ne portent pas ne couvrent pas la tête comme signe d'être mariées. Ce n'est pas ce que notre culture dicte. Elles n'ont donc pas besoin de se couvrir la tête pendant le culte. Mais elles peuvent certainement porter un autre symbole physique d'être mariées, qui communique qu'elles sont mariées. Et dans notre culture, c'est les bagues de mariées. Dans une culture comme la nôtre, notre engagement dans le culte, y compris notre tenue, pointe-t-il les gens vers Jésus ou bien transmettons-nous par inadvertance des messages suggestifs autour de nous? Notre tenue est-elle appropriée? Ceci est valable pour les hommes et les femmes. Nous n'avons pas besoin d'avoir l'air de sortir d'un film Orgueil et Préjugés, mais nous ne devons pas non plus avoir l'air de revenir de Love Island. Revenons-nous à 1 Corinthiens 10:31. Soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Notre désir doit être de projeter les caractères, les valeurs, la vision de Jésus, de lui apporter la gloire dans tout ce que nous faisons. Jésus doit être au centre de notre adoration, pas nous. Maintenant, regardons un cœur d'adorateur au sein des conventions sociales. Verset 13. « Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans être couverte? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter des longs cheveux? Mais qu'est-ce qu'une gloire pour la femme d'en porter? Parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. » La nature signifie très probablement ici votre sens naturel de ce qui est approprié pour les hommes et les femmes. Dans votre culture, dans les conventions sociales. Et Paul utilise les coiffures comme une analogie. À Corinthe, les cheveux courts étaient normaux pour les hommes et les cheveux longs pour les femmes. En parlant des coiffures, regardez cette coiffure de la culture gréco-romaine antique. Cette femme devait... C'était la fille de César Auguste. Cette femme ne devrait, elle n'allait pas le faire jusqu'à à 11h45. Je ne suis pas sûr. Elle serait arrivée en retard. Les seuls statues survivantes à Corinthe représentant des hommes avec des longs cheveux sont celles apparaissant dans la façade des captifs. Leurs longs cheveux communiquaient qu'ils sont dans la culture corinthienne, qu'ils sont faibles et efféminés. Les cheveux longs sur les hommes à Corinthe transmettaient une ambiguïté sexuelle et une perversion morale. Le point de Paul est le suivant. Les normes de coiffure et de tenue appropriées varient d'une culture à l'autre. Mais les hommes devraient ressembler à des hommes dans leur culture et les femmes devraient ressembler à des femmes dans leur culture, plutôt que de diminuer ou de finalement de nier les différences données par Dieu entre le sexe. Contrairement à ce que certains diraient dans notre culture, le sexe et le genre ne sont pas des constructions sociales aujourd'hui. Nous ne sommes pas des êtres non-binaires, des genres neutres. Au cœur de notre ADN, nous sommes mâles et femelles, créés à l'image des dieux. Les deux sexes portent leur beauté unique et se complètent l'un l'autre. Les distinctions appropriées entre les sexes doivent être honorées. Comment devrions-nous appliquer l'enseignement de Paul ici aujourd'hui? Certaines églises suivent les instructions de Paul littéralement. Elles croient que dans chaque culture, les femmes devraient porter, couvrir leur tête avec des foulards dans le culte public et elles devraient avoir des cheveux longs. D'autres aimeraient ignorer complètement le passage aujourd'hui. J'ai aujourd'hui suivi la parole littéralement. Certains d'entre nous doivent faire des changements. Je blaguais aujourd'hui avec cette semaine avec John Dick et Rebecca. John a des longs cheveux et Rebecca en a des courts cheveux. Certaines personnes voudraient ignorer complètement le passage aujourd'hui, le rejetant comme quelque chose de spécifique à Corinthe. Les symboles physiques comme les foulards ou les coiffures signifient des choses différentes dans les grands vents couverts contemporains. Si nous ne traduisons pas les coutumes d'une autre à l'autre, nous risquons toutes sortes de malentendus. Par exemple, en Bulgarie, la coutume est, si tu veux dire oui, tu hoches la tête, et si tu veux dire non, tu hoches la tête vers le haut. Je devais pratiquer cela. Donc, si je suis en Bulgarie et je hoche ma tête vers le haut, je ne dois pas espérer que les Bulgares vont comprendre que j'étais en train de dire non. Ça va être un peu compliqué. Voyez-vous l'importance de l'interprétation de coutumes d'une culture à une autre? Qu'est-ce que ça veut dire? En faisant comme ça en Bulgarie, ça veut dire non, ça ne veut pas dire oui. Comment devrions-nous nous saluer à Willingdon? Une sainte embrassade, un saint baiser, une révérence de respect, une poignée de main, un chèque, une accolade. La question est qu'est-ce qui communique l'amour, le respect, l'honneur pour la personne que vous saluez? La personne que vous saluez, qu'elle va-t-elle recevoir? On pense aux autres. Et dépendamment de la culture d'où tu viens, la façon appropriée change. Au sein de chaque culture, nous devons nous demander, nos paroles et nos actions soulignent-elles le caractère de Dieu? Sur l'ordre de l'Église, sur le cœur de Jésus? Ou bien nos paroles et nos actions sapent-elles ce que nous prions, disons et chantons en son nom? Au cœur de notre passage, Paul parle d'un cœur d'adorateur au sein de l'ordre de la création, versets 7 à 12. Dans ces versets, Paul nous ramène à Genèse 1 et 2. 1 Corinthiens 11, 7, 9, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Remarquez ce que Paul ne dit pas. Il ne dit pas que les hommes portent l'image de Dieu et que les femmes ne la portent pas. Il ne dit pas que les femmes ne reflètent pas la gloire de Dieu. Il ne dit pas que les hommes sont supérieurs ou les femmes inférieures. Il s'appuie sur Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image et il créa l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. L'homme, mot homme est le terme générique pour l'humanité. Les hommes et les femmes portent ensemble l'image de Dieu, mais il y a un ordre dans la création. Mais pour l'homme, Il y a un ordre. Genèse 2, 20. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide qui lui fit assortir. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il amena vers l'homme. Alors la première femme a été créée à partir de l'homme et pour l'homme. Le mot aide porte beaucoup de dignité. Il est utilisé pour Dieu dans les Écritures. Les hommes et les femmes reflètent la gloire de Dieu sur terre de manière différente et complémentaire. Le premier homme et la première femme formaient un couple marié, Genèse 2, 24, 25. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient pas honte, aucune honte, seulement de l'honneur. Dans 1 Corinthiens 11, 7, 9, Paul pense au contexte du mariage, de la relation entre le mari et la femme. Le mari et la femme sont tous deux la gloire d'un autre et ont l'obligation de ne pas couvrir de honte leur tête. Les hommes doivent apporter la gloire à Christ par leur caractère, leurs paroles et leurs actions. Les femmes mariées doivent apporter l'honneur et gloire à leur mari par leur caractère, leurs paroles et leurs actions. Et cet ordre de la création n'est pas limité à une culture particulière. Elle est ancrée dans la création. Ensuite, Paul offre un complément au verset 7-9, dans les versets 11-12. « Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. » Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même que l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Dans le Seigneur, dans leur union avec Jésus, les hommes et les femmes sont mutuellement indépendants. Ils sont égaux, mais différents. En fait, ils doivent être à un niveau très fondamental. Les hommes et les femmes ne peuvent pas exister les uns sans les autres. Les hommes et les femmes ont besoin les uns des autres pour s'épanouir, et tout vient de Dieu, Paul écrit. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. L'homme et la femme doivent leur origine à Dieu. Il est leur source. Les hommes ne sont pas supérieurs et les femmes inférieures. Ils existent tous deux pour la gloire de Dieu. En raison de cet ordre de la création et de la gence de la femme, Paul peut écrire au verset 10, « C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur sa tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Plus littéralement, la femme doit avoir l'autorité sur sa tête. La femme prend l'initiative en portant en couvrant sa tête dans le culte afin d'honorer son mari par révérence pour Christ. La dernière chose qu'elle veut faire est de déshonorer Jésus en déshonorant son mari. » À Corinthe, c'est ainsi qu'elle démontre son amour et sa fidélité envers son mari. Au lieu d'attirer l'attention sur elle-même, invitant les hommes à la réluquer pendant qu'elle prie et prophétise, elle dirige l'attention vers Christ, la tête de l'Église. Et Paul ajoute une phrase intéressante au verset 10. Et cela est fait à cause des anges. Lorsque nous adorons Dieu en esprit et en vérité, quand nous nous rencontrons ici à 10h, nous nous joignons aux anges du ciel. Adorons-nous avec la conscience de la présence des anges avec nous? Est-ce que nous venons avec cette conscience? Ou bien nous avons zapper les... Nos services de culte doivent être un avant-goût d'Apocalypse 7, 9, 12. Après cela, j'ai regardé et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils s'étaient nés devant le trône et devant l'agneau. Et tous les anges s'étaient nés autour du trône, et ils tombèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La louange, la gloire, la sagesse, l'action des grâces, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle de siècles. Amen. Alors les anges adorent Dieu seul. Ils savent que Dieu, ils n'adorent personne d'autre. Ils savent que Dieu seul est digne de tout honneur, de toute louange, de toute gloire et de toute puissance. Alors ce matin, les anges peuvent-ils se joindre à nous dans l'adoration? Parce que nous, en tant qu'Église, nous avions le... étions concentrés seulement à Dieu. Notre adoration était dirigée à celui qui est sur le trône. Nous avons chanté, les anges crient « Saint », nous crions « Saint », ce n'est pas seulement des mots. Voici le mot final de Paul, le dernier mot de Paul. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, non plus que les églises de Dieu. Paul savait qu'à Corinthe, certaines personnes voudront argumenter. Et je ne serais pas surpris si, d'une certaine façon, nous voudrions aussi tomber dans cela. Je pense que vous serez d'accord avec moi que nous vivons dans une culture de déshonneur. Malheureusement, il est commun dans notre culture de déshonorer. De déshonorer Dieu. De le déshonorer complètement. De déshonorer l'ordre de la création. Il est commun de ne pas reconnaître le Dieu dans tout ce qui a été fait. De déshonorer l'Église, le mariage et la famille et toute autorité. Les arguments de Paul dans ce passage, qu'on les aime ou pas, sont basés sur la Trinité et l'ordre de la création. Et ces choses... cette orientation donnée est résolument intemporelle. Si nous ne parvenons pas à écouter la parole de Dieu, si nous essayons des appels à vaisselle, pour ainsi dire, si on essaye d'éviter cela, nous allons en souffrir. Et si j'avais le temps, je démontrerais cela, comment la société canadienne souffre, parce que nous avons complètement... rejeter tout ce que Paul est en train de dire ici. En tant qu'Église, nous avons le privilège d'être une communauté qui est contre-culturelle, une famille d'Église qui honore et adore Dieu pour qui il est, qui honore le peuple de Dieu, l'Église, une Église qui honore le mariage et la famille, qui honore les personnes et l'autorité, et qui honore chaque personne de toute tribu, langue et nation. Nous avons la chance d'être l'Église du Dieu vivant aujourd'hui. Franchement, la dernière chose dont notre monde a besoin, c'est une Église qui lui ressemble, trait pour trait. Une Église qui la ressemble, c'est que... Alors puissions-nous être les gens que Dieu nous appelle à être? Quel grand appel d'adorer Dieu dans toutes les sphères de la vie! Quel grand appel de redécouvrir ce que ça veut dire d'être marié, d'être une famille! Quel grand appel d'honorer Dieu pour la façon dont il a créé la création! Quel grand appel d'aimer toutes les personnes, de vraiment aimer toutes les personnes, d'où qu'elles viennent! D'être guidé par l'amour de Dieu dans toutes choses et de lui apporter la gloire dans toutes choses. Que Dieu puisse savoir nous faire grâce. Amen. Prions. Alors Jésus, nous reconnaissons comment ce texte est difficile. Alors je prie pour moi-même et pour toute personne ici, dans l'auditoire, dans la connexion en ligne. Seigneur, puissions-nous entendre ta parole. Que tu puisses renouveler nos pensées, que tu puisses transformer nos cœurs. Que puissions-nous accorder à ta parole de faire le travail pour lequel tu l'as envoyé. Et par ta grâce, puisse chacun d'entre nous qui porte ton nom, que nous puissions vivre pour ta gloire aujourd'hui, cette semaine qui s'en vient et tout le reste de nos vies. C'est ça notre prière au nom de Jésus. Amen. Amen. On va avoir un temps de réflexion.